Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21e siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Comment ça marche le cerveau des enfants? Moi, c'est une question que je me suis posée assez tôt dans ma paternité, puisque je me la suis posée carrément tout de suite. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais déjà fait des études sur le sujet, sur le fonctionnement du cerveau de l'adulte, sur comment interagir entre adultes de manière efficace, sur les comportements, sur ce qui était motivant, pas motivant, etc., etc. Et c'est vrai que quand je me suis dit, tiens, je vais devenir papa, naturellement, je me suis dit, mais ok, mais comment ça marche le cerveau des enfants? Eh bien, il se trouve qu'il y a un documentaire qui est sorti, qui s'appelle « Le cerveau des enfants, un potentiel infini » en 2017. Ce documentaire, il a été réalisé par Stéphanie Briand, qui est mon invitée du jour. Stéphanie Briand, elle est journaliste, réalisatrice, présentatrice de télévision, productrice et conférencière. Elle consacre depuis 7 ans son travail aux thématiques liées à la libération du potentiel humain. Outre le documentaire Le cerveau des enfants dont je vous ai parlé, elle a aussi écrit des ouvrages. Elle a écrit Guide du cerveau pour parents éclairés. Je l'ai lu et je vous le conseille. Elle a aussi écrit L'incroyable pouvoir du souffle, que j'ai lu, qui est étonnant et que je vous conseille. Elle a aussi écrit récemment L'incroyable pouvoir de l'amour et Réapprendre à respirer. C'est un petit cahier qui permet justement d'avoir des outils très pratiques pour, pour réapprendre à respirer, pour se réapproprier son souffle, un petit peu travailler avec son corps. Elle a aussi fondé l'Académie du souffle et en 2022, du coup, l'Académie de l'amour, qui propose des outils pratiques, des événements et des formations en ligne sur ces sujets. Revenons au cerveau des enfants. C'est vrai ça, comment ça fonctionne? Moi, c'est des questions que je me suis posées. Et quand j'ai vu son documentaire, j'ai été touché déjà par l'aspect très personnel qu'elle mettait dans le documentaire, puisqu'elle partait de son parcours à elle. Il y a des choses qui ont beaucoup résonné en moi et que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, en fait, il y a vraiment une compréhension de certains mécanismes très précis dans le cerveau des enfants, notamment que ce soit pour les apprentissages ou pour les relations ou pour l'émotionnel. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Je me rappelle très bien aussi d'une scène où on voit des enfants qui apprennent comment fonctionnent les abeilles par le corps. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et justement, je vais revenir sur l'ensemble de ces éléments qu'on peut retrouver dans le documentaire, mais aussi dans son livre sur le cerveau des enfants. Je vous mettrai bien sûr les liens en description de l'épisode. J'ai profité de sa venue au congrès Innovation en éducation qui avait lieu à Bordeaux pour la rencontrer puis pour échanger avec elle donc sur tous ces sujets qui ont un attrait au cerveau des enfants. Nous parlerons dans l'épisode bonus du souffle justement parce qu'il y a vraiment des choses incroyables à découvrir. N'hésitez pas aussi à aller sur son site. Elle a mis des outils justement pour les parents, pour accompagner, pour évoluer sur sa parentalité, pour prendre confiance. Et je trouve ça très très intéressant. La première question que je vais lui poser en fait, pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce fameux cerveau des enfants, c'est quoi la différence entre le cerveau de l'enfant et le cerveau de l'adulte? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Il n'est pas mature. Parfois, on peut avoir des adultes qui ne sont pas matures, mais ce n'est pas leur cerveau qui n'est pas mature, c'est leur cerveau qui ne s'est pas développé correctement. Donc l'immaturité, si vous voulez, va créer des comportements qui sont parfois étonnants, mais qui viennent de ce fait-là. C'est que il n'y a pas encore la capacité du cerveau de réagir à un certain nombre de choses, puisque la dernière partie du cerveau qui se développe, qui est le cortex préfrontal, va se développer jusqu'à la fin de la vingtaine. Donc, on va dire que jusqu'à 25 ans, de toute façon, le cerveau n'est pas encore mature. Ce qui explique aussi que l'on voit chez les adolescents ou les jeunes gens des comportements où on se dit « mais ils sont tombés sur la tête, pourquoi ils font ça ?» Eh bien parce que le cerveau n'est pas encore mature, donc ils n'ont pas la capacité réellement de prendre des décisions totalement éclairées, de prendre du recul, du champ par rapport aux situations et d'agir en conscience, entre guillemets.
C'est très intéressant parce que du coup, en fait, légalement, on est adulte à 18 ans, alors qu'en fait, notre cerveau est quand même pas vraiment fini, si je peux me permettre de le dire comme ça.
Absolument. Pas vraiment fini. Et puis, même s'il était terminé, il serait intéressant de voir s'il est en santé ou non. Oui. S'il est en mesure de bien gérer les situations ou non. Les comportements à risque, ils sont très, très liés au fonctionnement du cerveau. Il y a un psychiatre américain que j'aime bien parce que il est à la fois assez précurseur et puis après, bon, bah, il pousse aussi un peu dans les extrêmes. Néanmoins, il a été un des premiers à dire, bon, très bien, moi, je suis psychiatre, donc je suis docteur du cerveau, un organe qui ne se voit pas. Tous les autres médecins, ils ont le droit d'avoir les radios, d'avoir des examens quand les patients viennent les voir, et puis nous, on n'a rien. Donc, il a décidé de scanner les cerveaux. Et il se trouve que les troubles du comportement, ce qui est de l'ordre de la maladie mentale, eh bien, ça se voit dans le cerveau juste avec un simple scan. Et aujourd'hui, quand ces enfants ont des petits amis ou des petites amies, ils demandent un scan du cerveau et ils valident ou non.
Non.
Si. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, si notre cerveau il n'est pas complètement développé, si notre cerveau il a été endommagé par des traumatismes divers et variés, eh bien, faut pas s'étonner que les comportements soient pas nécessairement ceux qui vont nous apporter le plus de bien-être, le plus d'épanouissement. En revanche, déjà, il y a une chose qui est ultra importante, c'est que la neuroplasticité existe et qu'à n'importe quel âge, que ce soit enfant ou adulte, on peut avoir des transformations. Néanmoins, si on plante la bonne graine et qu'on la fait pousser correctement dès le départ, ben on va gagner du temps, de l'énergie et évidemment, c'est favorable pour l'enfant et pour l'adulte et la société.
Et justement, ce cerveau, donc il faut qu'il soit bien structuré, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que le bien est toujours, peut être assez aléatoire, mais comment ça se structure, un cerveau, du coup ?
Alors, il y a plein d'éléments qui sont à la fois dans la construction du cerveau, où on produit plus ou moins de neurotransmetteurs, mais il faut le saisir comme une architecture. Donc, l'architecture, elle vient, dans un premier temps, de ce que l'enfant voit, de ce avec quoi l'enfant est en contact, les comportements qu'il va observer autour de lui, les relations qu'il a avec son parent et les personnes qui s'occupent de lui. Ça va devenir sa croyance et le programme automatique de son cerveau. Quand on a des expériences de vie comme ça, ça va s'encoder dans ce qui s'appelle la mémoire implicite. Si vous voulez, c'est notre inconscient. C'est le programme autopilote qui se met en route. Et donc, on va plus s'en rendre compte, mais notre cerveau va être teinté en permanence de ça. Et comme ensuite le travail du cerveau essentiel, c'est de faire de la prévision, il va faire de la prévision sans cesse en se raccordant à ce passé, à ses expériences passées. Donc sa prévision va toujours être teintée. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que vous croyez ce que vous avez vu, et vous allez vous mettre à voir ce que vous avez cru. Donc le cerveau, il se construit vraiment comme ça. Et après, il va falloir transformer, et c'est difficile de gommer et de faire, de restructurer quelque chose de nouveau. Et dites-vous aussi qu'il y a beaucoup d'associations dans le cerveau, parce qu'on a des neurones en quelque sorte qui vont s'enflammer ensemble. Donc par exemple, dans nos choix de parentalité, dans nos choix d'éducation, c'est essentiel de se dire quelle action je mets avec quel comportement. Imaginons que ce soit le moment de célébrer quelque chose avec l'enfant. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre dans la famille ? Est-ce qu'on mange un litre de glace ? Est-ce qu'on va au cinéma ? Est-ce qu'on fait une réunion de famille ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Parce que dans le cerveau de l'enfant, comme ça va être un comportement à répétition, la célébration, elle va toujours être liée à ça. Donc, si le litre de glace qu'on s'enfile, il est lié à la célébration, bah vous imaginez que derrière, il va y avoir une espèce de développement d'une addiction, entre guillemets, quand on va avoir besoin de se sentir bien, de célébrer, à du sucre, par exemple. Et ce n'est pas ce qu'on va souhaiter sur le long terme. Donc, se dire que tout se met comme ça sur des petites routes au départ qui deviennent ensuite des autoroutes, ben voilà, qu'est-ce qu'on a comme comportement répété dans la relation que nous avons avec notre enfant va architecturer des petites voies du cerveau qui vont ensuite prendre un peu le contrôle, entre guillemets, sur nos comportements.
Et c'est le principe du renforcement, en fait. On va avoir des associations qui vont se renforcer ou non, parce que l'association peut être ponctuelle, du coup.
Exactement, ponctuelle.
Là, il n'y a pas de débat. Enfin,
exactement, ça ne devient pas une autoroute, ça reste voilà. Un petit chemin de traverse dans la campagne.
Un petit chemin qui peut exister, dont on aura un chouette souvenir, mais
c'est la
qui
ne
va pas devenir une habitude. Vous parlez d'attachement, on parle aussi souvent de figures d'attachement, mais quel rôle joue l'attachement dans la structure du cerveau, du coup ? C'est parce que, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce qui vient des figures d'attachement, ça a quand même une certaine importance. Enfin, ça a peut-être justement renforcé un petit peu plus.
C'est essentiel. Le bon développement du cerveau de l'enfant, il est lié à cet attachement sécur. Il y a 4 types d'attachement. Donc l'attachement, c'est vraiment la relation qu'on entretient avec la personne qui s'occupe le plus de nous. Ça peut être un parent, mais parfois on peut développer un attachement aussi avec un professeur, avec quelqu'un qui n'est pas au contact immédiat, mais avec qui on arrive à avoir ce lien totalement privilégié. L'attachement, donc, il va être en nous, à vie, et à chaque fois on va projeter nos relations en fonction de cet attachement-là. Donc tous nos liens sociaux, ils vont être teintés de cet attachement initial. Il y a donc 4 types d'attachements. L'attachement anxieux, l'attachement évitant, l'attachement désorganisé et l'attachement sécure. L'attachement anxieux, il se développe avec des parents qui sont surprotecteurs, par exemple, ou qui, au contraire, ne répondent pas du tout aux besoins de l'enfant. Ils sont pas là, absents. Donc, quand on est un enfant anxieux et que, par exemple, on a un parent surprotecteur, c'est parce que l'enfant ne croit plus en sa capacité de se débrouiller, de faire face. Donc, il va devenir anxieux. Et si le parent ne répond pas du tout à ce besoin, évidemment, il est anxieux parce qu'il sait qu'il est en panique, qu'il manque de quelque chose et que personne n'est là pour satisfaire ses besoins. L'attachement anxieux à l'âge adulte va aussi créer de nombreux dysfonctionnements parce qu'on ne sera jamais à l'aise dans une relation. L'anxieux, il a toujours l'impression qu'il va être quitté, qu'on ne trouve pas qu'il soit à la hauteur. Donc, il cherche davantage de proximité. Et ce sont des êtres qui vont avoir beaucoup de colère, qui vont faire exploser beaucoup les conflits. Parce que justement, comme ils cherchent du contact et qu'ils ne savent pas comment l'obtenir et qu'ils ont très peur, ben il faut qu'ils créent le trouble pour recréer cette reconnexion. Donc ça devient, après sur le comportement, très très compliqué quand on a un attachement anxieux. L'attachement évitant, ce sont souvent des enfants qui ont grandi avec des parents pour qui le monde extérieur était plus important. Très sensible au « quand dira-t-on ?». Donc, c'est bien de se comporter de cette façon-là. Je veux que tu te conformes à ces comportements parce que dans la société, moi, je veux être bien vu. Donc, faisant fi totalement des réels besoins de l'enfant. Et à l'âge adulte, l'évitant, il n'est pas du tout à l'aise avec l'intimité. Donc, il est un hyper indépendant. Mais un hyper indépendant qui a oublié qu'en fait, au départ, il a été victime d'une négligence. Mmh. Il ne s'en rend pas compte. Le désorganisé, ses attachements se développent avec du traumatisme. Donc la violence, des parents alcooliques, un deuil très jeune dans la vie de l'enfant, mal géré, mal expliqué, vont laisser des traces terribles parce que la figure d'attachement, qui normalement doit représenter la sécurité, représente aussi une source de danger. Donc dans le cerveau de l'enfant, c'est « j'aime, mais en même temps cette personne me fait du mal, mais je l'aime et je veux rester près d'elle ». Donc à l'âge adulte, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des personnes qui vont vous aimer à la folie, enfin, mettre ça sur le compte de l'amour, mais être très, très, très proche et fusionnel, et puis faire quelque chose de très violent à votre égard, vous trahir, vous faire vraiment avoir des actions qui vont vous faire du mal et vous abîmer. Et puis enfin, il y a l'attachement sécure, qui est donc le seul attachement souhaitable, et on a tous envie de tendre vers cet attachement-là, qui est quand le parent est disponible, disposé, là pour l'enfant, dans une grande disponibilité émotionnelle, où l'enfant se sent vu, l'enfant se sent entendu, l'enfant se sent accompagné, accepté tel qu'il est. Il n'y a pas d'amour conditionnel dans l'attachement sécure. C'est-à-dire que même si l'enfant ne se comporte pas comme le parent le souhaite, jamais on va retirer l'amour, jamais on va rentrer dans une dimension de chantage. Donc la sécurité est là dans la relation, parce que l'enfant sait qu'il peut être formidable ou aller vers des mauvais penchants et que ça ne changera pas la nature de sa relation avec son parent. Et dans ces attachements, évidemment, à l'âge adulte, eh bien, on peut créer une vie assez aisée avec autrui, avoir une vie de couple très épanouie. Pourquoi ? Parce que le conflit n'est pas un problème. On peut parler des choses, on aborde clairement les choses, on les solutionne. On n'imagine pas que ce serait mieux ailleurs. On sait que la vie, elle n'est pas toujours rose. Et on est un être donc sécurisant qui peut apporter de la sécurité à autrui. Et on est aussi en sécurité, c'est-à-dire que on ne s'inquiète pas de savoir comment l'autre va réagir. Et ces attachements, ils vont en effet structurer le cerveau de l'enfant. Quand vous avez connu un attachement évitant, et ben quand ça fait trop mal dans la vie, vous disjonctez en quelque sorte. Et vous avez créé un programme justement dans le cerveau qui fait que pour vous préserver, vous allez vous couper. Vous développez l'imaginaire très fort pour vous extraire justement des situations douloureuses. Quand vous avez un attachement anxieux, votre système nerveux, il est sursollicité. Vous avez une très mauvaise régulation, donc ça va aussi s'imprégner dans votre cortex préfrontal, la dernière partie du cerveau qui se développe, parce que c'est là que la régulation des émotions a lieu. Et ça ne s'est pas fait correctement. Quand vous avez un attachement désorganisé, alors là, oui, le système nerveux dysfonctionne énormément et le cortex préfrontal, en général, quand on regarde au scanner, on voit qu'il est très altéré. Et enfin, l'attachement Ségur, ben non, là, c'est plutôt fluide. On a un cortex préfrontal qui fonctionne bien. On a une façon de prendre des décisions qui est très plus sereine et avisée, de corriger l'erreur, parce que c'est aussi très, très lié à l'erreur, nos attachements. Ce qu'on va après avoir dans la gestion de l'erreur, elle est corrélée à ça, dans le fonctionnement vraiment du cerveau. Donc, c'est la base essentielle de la sécurité. Et c'est très important aussi de faire une chose pour le développement du cerveau et créer cet attachement sécur, c'est de se regarder dans les yeux. Quand on est parent d'un jeune enfant qu'on nourrit, par exemple, mais surtout, ne pas faire autre chose pendant qu'on le fait. Parce que c'est un moment où on plonge dans les yeux de l'enfant. Que ce soit au sein ou au biberon, on doit être connecté à cet enfant. Et par les yeux, on va créer de la sécurité, justement. Et c'est là qu'on commence à construire cet attachement sécur. Et c'est là que l'enfant, il commence à saisir ce que c'est que d'être en lien avec son parent et qu'il va développer, justement, son cerveau correctement.
Je me permets de préciser pour les personnes qui nous écoutent que le propos par rapport à l'attachement sécur, ce n'est pas de dire que le parent ne peut jamais s'emporter, ne peut jamais faillir, entre guillemets, à la vision parfaite qu'on peut avoir du sujet. C'est juste comprendre qu'au contraire, ça peut même être même intéressant quand même de transmettre, de profiter de ces moments-là pour transmettre bah, comment est-ce qu'on s'excuse, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on n'aurait pas dû se comporter ainsi. Mais l'idée, c'est juste que l'enfant s'imprègne du fait que quoi qu'il arrive, mon parent m'aime. Voilà. Quoi qu'il arrive, mon parent m'aime. Et ça, en effet, c'est important. Vous parlez de l'erreur. Et c'est marrant parce que je ne vous avais pas donné la liste des questions. Et ma question suivante, c'est justement de parler de l'erreur. Parce qu'en France, on a souvent tendance à pointer l'erreur, hein, à la stigmatiser. On n'aime pas les erreurs. L'échec, ça peut peser très, très lourd quand même sur les vécus. Mais quel est son rôle dans la structure du cerveau, dans l'apprentissage, dans ce qu'on peut en dire?
On est très conditionné en fonction de nos croyances dans notre rapport à l'erreur, mais de façon mécanique. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on croit, notre cerveau ne réagit pas de la même façon à l'erreur. Il peut ou bugger, ou très bien gérer l'erreur et l'utiliser pour présenter une nouvelle solution. Et c'est conditionné par quoi ? Par notre état d'esprit. Donc c'est une chercheuse américaine de l'université de Stanford, Carol Dweck, qui est la première à identifier cette notion d'état d'esprit. Donc, il y a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe, c'est un état d'esprit qui se développe quand on a la vision du monde en disant qu'il y a des gens qui sont doués. Il y a des talents, il y a des dons innés et certaines personnes sont douées. Et quand on a cette vision du monde, évidemment, eh bien, on a l'impression qu'il y a des catégories de personnes qui sont différentes. Quand on fait partie de ces gens doués à qui on a dit toujours qu'ils étaient doués, on est dans une espèce de prison. Parce que quand on vous a dit que vous étiez doué, quand vous êtes enfant, eh bien, si vous vous mettez à travailler, vous n'êtes plus doué. Donc, vous ne vous pouvez pas travailler. Quand on vous a dit que vous êtes doué, vous allez redouter de tomber de votre piédestal. Donc, tout le monde autour de vous est une menace. Dans l'état d'esprit de croissance, au contraire, on vous dit que où que vous vouliez arriver, vous pouvez y aller avec du travail. Peut-être que vous ne partez pas du même endroit, c'est-à-dire que peut-être qu'en effet, votre frère ou votre sœur, pour l'instant, le dessin, il y arrive beaucoup mieux que vous. Mais pour autant, comme votre faculté de progression est infinie, vous pouvez très bien, non seulement dessiner aussi bien, mais peut-être dessiner encore mieux. Et quand on a cet état d'esprit de croissance, eh bien, c'est parce qu'on a validé, valorisé la progression. On n'a jamais dit à un enfant « Waouh, t'es hyper doué. Oh là là, mais vraiment, qu'est-ce que t'es bon ?» Non. En revanche, on lui aura dit « Oh, tu te rends compte des progrès que t'as fait ? L'année dernière, t'étais pas capable de faire un dessin comme celui-ci. Et aujourd'hui, waouh, c'est incroyable !» Et comme l'enfant devient attaché et est fier de sa progression, il va toujours être en quête de progression. Et c'est quelque chose qui va l'ouvrir, évidemment, à pouvoir se développer sur tous les aspects. Et que se passe-t-il dans le cerveau, donc ? Quand on a cet état d'esprit fixe, eh bien, il y a une partie du cerveau qui est au centre du cerveau, qui est un peu notre système d'alarme. Quand l'enfant fait une erreur, ou que l'adulte fait une erreur, parce que ça nous poursuit évidemment toute notre vie, eh bien, ce système d'alarme, il se met en route. Et plutôt que d'essayer de corriger l'erreur, on est comme tétanisé. Donc, ça rend beaucoup plus difficile, en fait, d'avancer dans la vie. Parce qu'on va toujours être limité, parfois on va même refuser l'obstacle, un peu comme les chevaux, vous savez, qui arrivent proche de l'obstacle et qui baissent la tête et qui disent « ben non, je saute pas ». Et c'est du fait simplement de notre manque de flexibilité cognitive qui a été créé au départ par cet état d'esprit. Donc, ça se rééduque, mais c'est long. Parce que moi, j'ai commencé, par exemple, à aller dans cet état d'esprit fixe, parce que je suis un produit de l'état d'esprit fixe. Mes parents m'ont élevée comme ça. Et mon fils, donc, j'ai reproduit ce que j'avais vu, donc de valoriser vraiment ses accomplissements, mais pas du tout sa progression. Et on a commencé à remettre ça en circulation quand il avait peut-être 6 ou 7 ans. Et aujourd'hui, il en a 12, mais on est encore sur les effets de la première partie de sa vie. On voit que quand un enfant, on lui fait beaucoup de compliments à l'âge de 2 ou 3 ans, on peut présager de sa réussite scolaire, de son 5 ans plus tard. Donc, ne faites pas de compliments à vos enfants.
Alors, c'est pareil.
Non, bien sûr.
Non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, ce que je comprends, c'est qu'on a souvent tendance à regarder le résultat et pas le processus.
Absolument.
Et alors que c'est le processus qui est important.
Il faut complimenter le processus, exactement.
Et
la ressource de l'enfant, en fait, c'est ça qu'on complimente.
Mais c'est ça. Et je pense que moi, souvent, j'illustre ça par est-ce que vous avez. Souvenez-vous de votre enfant qui apprend à marcher, quoi. Votre enfant qui apprend à marcher, moi je trouve ça formidable parce que bon, ça passe par plein d'étapes qui parfois nous paraissent anodines. Mais surtout, l'enfant ne doute pas. L'enfant, il ne doute pas qu'il va y arriver. Et c'est plus tard que ça se produit le doute. C'est une fois qu'on va avoir justement appuyé sur cette idée de résultat. Il y a des petits tips après qu'on peut peut-être donner. C'est que si l'enfant dit « j'y arrive pas encore », c'est tout bête, hein, c'est 6 lettres, mais ça peut tout changer. Et aussi, en effet, valoriser la progression, je pense que c'est hyper intéressant, et parfois même les toutes petites progressions, quoi. Mais vraiment insister sur ce processus, ça me paraît essentiel, et c'est vous avez du coup anticipé ma question suivante sur l'état d'esprit fixe et de croissance. C'est vrai que là-dessus, est-ce que les étiquettes qu'on peut donner à nos enfants, alors vous l'avez un petit peu dit, mais positives comme négatives, ou agréables comme désagréables, en tout cas bien vues comme mal vues, ça joue vraiment un rôle sur la construction, alors ?
Ah, complètement. C'est vraiment de l'état d'esprit, en fait, parce qu'ils ont mené justement des études pour voir, en fonction de l'état d'esprit, comment réagissait le cerveau à l'erreur. Et c'est totalement connecté à ça. Donc, vous avez de la flexibilité cognitive beaucoup plus quand vous avez un état d'esprit de croissance. Ça va vous accompagner dans tout. C'est-à-dire que c'est comme si le fond de votre endurance, il était nettement meilleur. Et ce que vous disiez aussi sur cette notion de l'erreur, c'est de considérer comme un raté. Parce que souvent, quand on n'accepte pas de rater, on veut essayer de camoufler, de réparer le truc qui n'a pas très bien marché. Mais quand on accepte de rater, et que si on rate une tarte, si on rate sa cible, on reprend le process à zéro. Et je pense que l'erreur, il faut aussi l'apercevoir de cette façon-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de corriger le résultat à l'erreur. C'est de reprendre tout le processus dès le départ, pour comprendre où est-ce qu'a été la faille, qu'est-ce qui à un moment a fait dérailler et que justement le résultat a été faux. Parce que tant qu'on corrige le résultat, on ne permet pas au cerveau de comprendre ce qui s'est passé. Un cerveau, il a besoin de feedback, il a besoin, quand il y a une erreur, pas qu'on lui dise « ben non, c'est pas la bonne réponse ». Il a besoin de savoir ce qui n'a pas fonctionné. Et tant qu'il n'a pas compris ce qui n'avait pas fonctionné, il ne peut pas posséder le process. Donc à l'école, de faire une croix sur la mauvaise réponse et à côté de mettre la bonne, ça ne sert à rien. Dans la vie, quand on montre la bonne chose à nos enfants mais qu'on n'a pas compris ce qui ratait, ça ne sert à rien. Et c'est très intéressant de déconstruire, de vous dire « ok, on va remonter le truc dans l'autre sens. Voilà, regarde, là, c'est là qu'il y a la faille ». Et c'est ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, dans les startups, justement, quand on est dans cette perception d'un design absolument parfait et qu'à chaque fois, on dit « ah bah là, non, c'est pas parfait, donc tiens, on essaye de savoir ce qu'on peut modifier pour avoir des conséquences différentes ». On parlait tout à l'heure des lois de conséquences, bah voilà, les conséquences sont un résultat. Donc quand on veut changer le résultat, bah, il faut aller rechanger l'intégralité du processus.
Stéphanie, dans votre livre, à un moment, vous parlez de la cognition incarnée. Mais qu'est-ce donc ?
Eh bien, c'est d'apprendre par le corps.
On apprend par le corps ?
On apprend essentiellement par le corps, en fait.
D'accord.
C'est pour ça qu'il y a eu souvent un grand échec du système scolaire. On essaie de remplir les têtes alors qu'on ne saisit pas que c'est par le corps qu'on apprend et qu'on est fait pour expérimenter les choses, pour avoir des sensations, pour saisir dans nos perceptions. Et d'ailleurs, ça se fait dans le cerveau sans qu'on s'en aperçoive. En fait, il se passe des choses quand on comprend et qu'on apprend. Et donc, je me suis intéressée à, en effet, comment est-ce qu'on allait pouvoir se dire « repensons les apprentissages ». Et je suis allée, notamment pour le film « Le cerveau des enfants » dans une école à Los Angeles, où on essayait de faire comprendre le monde des abeilles, la pollinisation, en transformant les enfants en abeilles.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et avec les nouvelles technologies, en leur permettant de se projeter sur un mur virtuel, de voir comment il fonctionnait, de savoir ce qu'il fallait faire pour permettre aux fleurs de vivre. Et c'était incroyable parce qu'ils avaient saisi cet apprentissage de façon très profonde, c'est-à-dire qu'ils possédaient véritablement leur sujet. Ce n'était pas un concept externe qui n'était pas très clair et qui ne les touchait pas. Et en plus, ils ont mis beaucoup de compassion. Et ils voient le monde des abeilles après de façon totalement transformée. Mais il y a aussi d'autres façons de faire, et notamment pour ça, j'avais interviewé un chercheur de Stanford qui avait décidé d'apprendre les maths par le biais du mouvement. Les enfants, quand ils commencent à apprendre les fractions, souvent, il y a un décalage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris jusque-là l'addition, la soustraction, et la fraction, ce n'est plus du tout le même fonctionnement. Parce que quand vous voulez multiplier par 2 sixièmes, bah, les enfants, ils ne comprennent pas en fait que les deux facteurs vont grossir ou qu'il faut ajouter. Ils vont ajouter d'un côté, mais pas de l'autre. Ils ne perçoivent pas ce décalage. Et donc, ils ont fait travailler des enfants où ils leur mettaient des petits capteurs dans chacune des mains, sans leur dire qu'on travaillait les fractions. Hein. Mais il y avait un écran devant eux qui était au rouge, et quand ils avaient la bonne position des mains, ils passaient au vert. Donc quand ils faisaient un écartement juste des mains, il était au vert. Et après, on leur demandait de continuer, d'avancer, de grandir en fait. Et donc les enfants, ils devaient faire un écartement proportionnel des mains. Souvent, ils levaient juste les deux mains en même temps. Ils oubliaient de faire un petit décalage proportionnel. Donc ils étaient dans leur mode de pensée habituel de l'addition. Donc je lève les deux mains en même temps.
Bien sûr.
Et puis, eh ben, ils voyaient que ça passait au rouge. Donc, ils ne comprenaient pas. Et ils essayaient autre chose. Et puis, soudainement, ils voyaient que dès qu'ils réajustaient la main un peu plus haut, ah ben là, ça repassait au vert. Donc, petit à petit, ils commençaient à avoir le mouvement juste où directement, ils faisaient un petit décalage. Et quand ils montaient les mains, ils en mettaient une un peu plus haut que l'autre. Et c'était génial parce qu'on voyait justement dans le cerveau qu'il y avait une espèce de résistance au départ. C'est « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Et à un moment, le cerveau a lâché au moment où justement le corps s'est mis à comprendre. Et ces enfants, le jour où on leur a mis sur le papier les fractions, ils ont compris tout de suite. Parce que le cerveau avait déjà intégré ce shift-là. Et donc par le corps, ils sont mis à comprendre la fraction de façon beaucoup plus claire. Et il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Par le mouvement, justement, les apprentissages par le mouvement. Et d'autre part, il y a aussi tout l'aspect de mettre notre système d'apprentissage dans les meilleures conditions pour apprendre, et donc par exemple de faire de l'exercice physique. On sait que ça va favoriser l'apprentissage. Commencer la journée par un peu d'exercice physique pour les enfants, ça fait qu'en classe, ils apprennent nettement mieux.
Oui, on le voit d'ailleurs dans votre documentaire, je crois qu'il y a une école qui commence par une récréation, quoi, en fait.
Oui, exactement, et qui commence par une récréation, et on doit faire plusieurs aussi petits breaks, comme ça, physiques, pour réactiver les choses, et on n'en fait pas assez. C'est bien, il y a du sport qui a été rajouté dans les écoles, c'est super, donc c'est une bonne chose, mais ce que j'ai entendu aussi beaucoup dans les écoles, c'est « ok, mais moi, je suis professeur et je ne sais pas du tout, je ne suis pas prof de sport, donc je ne sais pas quoi faire. » Donc parfois aussi, on n'a pas de connaissance de ce qu'il faudrait faire. Et il y a des techniques physiques qui vont provoquer des effets positifs, des petits jeux, des petites choses qu'on peut faire. Donc voilà, la cognition incarnée, c'est à la fois de se dire « j'apprends par le corps me donne du feedback que sinon je n'aurais pas ». Parce que quand vous êtes, pour reprendre l'exemple des fractions, vous n'avez pas de feedback. Et là, avec son processus, tout de suite, on voyait que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il y a aussi des méthodes de mathématiques qui sont très efficaces parce qu'elles donnent du feedback comme ça à l'enfant. Et quand on fait juste sur table, non, on l'a pas. Donc le jeu peut permettre d'avoir comme ça cette compréhension de « non, là, ça n'a pas marché. Ok, qu'est-ce qui va faire que ça va potentiellement marcher ?»
J'en parlais avec une autre invitée aussi. Apparemment, c'est important que le feedback soit immédiat ou quasi immédiat.
Oui. Ben oui, parce que sinon, on ne peut pas être vraiment connecté avec ce qui a été fait. Donc c'est là, en plus, c'est encore mieux quand c'est modifiable. C'est-à-dire que là, avec l'appareil qu'il avait créé, non seulement les enfants avaient du feedback, mais en plus, s'ils corrigeaient, tout de suite, ça changeait. Ouais. Donc, c'était très, très clair, même s'ils étaient incapables de le mettre en mots. Et c'est ça qui est formidable, hein, c'est de posséder l'information. Il y a d'ailleurs des notations aux États-Unis que j'avais trouvées très intéressantes, où quand on est au niveau 1, c'est qu'on a un peu compris. Au niveau 2, c'est qu'on est capable de faire correctement. Au niveau 3, on commence à être dans la bonne maîtrise. Et au niveau 4, on peut transmettre parce qu'on a vraiment intégré. Et cette compréhension-là, c'est justement de l'ordre de la cognition incarnée. Vous l'avez en vous, ça a infusé vos cellules.
Mon auditoire sait qu'on est en instruction en famille et on parle aussi bien sûr de l'école. Et dans quelle mesure est-ce que justement le fait d'empêcher les mouvements, je pense aux enfants qui doivent rester assis sur une chaise pendant des heures, est-ce que ça peut jouer vraiment sur l'apprentissage? Est-ce que on voit aussi quelques écoles qui, des fois avec peu de moyens, mais ont peut-être pris des ballons, les permettent de travailler debout. Une autre invitée par laisser même ses élèves travailler allongés sur la table s'ils veulent. Est-ce que le mouvement vraiment, même aussi simple, on va dire, sans exercice prédéfini, ça peut aider l'apprentissage?
Ça peut aider l'apprentissage parce qu'en fait, ça va mobiliser ce qui s'appelle la mémoire de travail. Donc, on a besoin parfois de faire du mouvement justement pour la solliciter. C'est un peu pour l'agiter, là, pour dire « Allez, oh, on se met en fonctionnement ». Il y a aussi une autre chose, c'est que, à mon sens, quand il y a besoin de beaucoup de mouvement, c'est des systèmes nerveux un peu dérégulés. Donc, les enfants, ils ont besoin, pour se calmer, de faire du mouvement. Si on les empêche de faire du mouvement, ils ne se calment pas. Comme ils ne sont pas calmes, leur système nerveux est agité, donc ils ne sont pas ouverts à l'apprentissage. C'est voilà, un cercle vicieux. Donc, ce n'est pas nécessairement que le mouvement facilite l'apprentissage, mais le mouvement va permettre à ceux qui en ont besoin de les mettre dans les conditions de l'apprentissage. Et évidemment, on n'est pas fait pour être assis aussi longtemps. Et en plus, on parlera peut-être un petit peu de souffle, mais on voit que les respirations des enfants sont transformées à partir de l'âge où ils rentrent à l'école, où on les fait s'asseoir beaucoup plus longtemps. Et quand le souffle est transformé, le souffle est altéré, que la respiration est modifiée, eh bien on fait monter les niveaux de stress. Et donc, on leur permet absolument pas d'apprendre sereinement. Le système, il n'est pas prêt à recevoir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc oui, il y a toute une chose à repenser et puis surtout de se dire que l'apprentissage, il ne se fait pas juste parce qu'on nous transmet quelque chose, d'aller bouger, d'aller faire de l'expérience. C'est génial aussi de représenter les choses par le corps. La dernière fois, j'ai vu une petite vidéo sur l'oxygénation du corps. Et donc, les médecins qui avaient dessiné à la craie et qui faisaient les globules qui se baladaient, et ben là, on voit. Et quand on demande à des enfants de faire des jeux de rôle, par exemple, justement, sur le corps humain, en disant bah, comment ça marche la circulation sanguine, et puis on va prendre des petits chemins. Et là, c'est bon, vous êtes sûr qu'ils vont comprendre, ils auront bougé et ils auront vraiment intégré ce que c'était. Ils sont capables de le décrire vraiment en détail. C'est pas abstrait.
C'est passionnant. Moi, j'adore ces sujets-là. Pour vous qui nous écoutez, si jamais vous voulez réagir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le lien qui est en description pour laisser un message audio sur SpeakPipe et potentiellement pour apporter une réponse dans le podcast. On a parlé tout à l'heure un petit peu des croyances, des étiquettes. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu comme ça, c'est « Ok, on a compris ». Les croyances vont façonner, enfin vont se programmer en nous hein, quand elles sont répétées. Pareil pour les stéréotypes, les étiquettes. Mais du coup, quand on est parent et qu'on n'a pas spécialement conscience de ses propres croyances, du coup, est-ce qu'il y a des astuces qui existent pour en prendre conscience et éviter de les transmettre, surtout si elles sont peut-être un peu handicapantes dans la vie?
Eh bien, justement, de lire des livres, de faire tous les apprentissages qu'on peut faire dans les masterclass. J'essaye aussi d'amener les parents à prendre un peu de recul sur eux, à se dire « Ah bah oui, tiens, j'ai ça ». Et d'observer, la première chose pour moi, c'est qu'est-ce qui vous gêne dans les comportements de vos enfants? Qu'est-ce qui vous pose des problèmes? Qu'est-ce que vous trouvez inadmissible? Qu'est-ce que vous aimeriez modifier? Parce que ça, c'est votre schéma, quelque part, qu'il a vraisemblablement créé. Donc, plutôt que de voir l'enfant avec une action qui ne vous convient pas, dites-vous que c'est là-dessus que vous avez à bosser. Donc, potentiellement, vous avez ça qui n'est pas en place. Et puis, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est sur les notions de narcissisme des parents. Parce que je pense qu'on peut être très toxique pour nos enfants, justement, sans s'en rendre compte. Et qu'il y a un vrai questionnement à avoir. Donc, moi, je me suis vraiment beaucoup documentée sur le narcissisme. Pas les notions de pervers narcissique, hein, les comportements narcissiques que maintenant on met aussi un petit peu à toutes les sauces, mais on en a tous des comportements narcissiques, mais on ne les a pas tous au même degré. En revanche, je crois que c'est ça qui abîme le lien avec nos enfants. Donc, de pouvoir travailler là-dessus, c'est capital. et de comprendre ce que c'est et de comprendre à ça, ok, comportement narcissique. Dès qu'on est aussi dans le contrôle, qu'on essaye d'imposer des choses, c'est qu'il y a quelque chose à justement rendre un peu plus souple chez nous. Donc voilà, pour s'améliorer, pour se rendre compte de ce qui cloche, c'est important de prendre du champ, mais avant de prendre du champ, d'être enseigné. Parce que tant qu'on ne peut pas reconnaître la chose, on ne va pas la voir. Mais plus on est informé, plus on est capable de voir ce qui potentiellement peut entraver nous aussi notre bien-être et notre libération. Hein. Et puis aussi, c'est très important de voir les fonctionnements de codépendance qu'on a avec les uns et les autres dans la famille, dans la fratrie, directement avec l'enfant, avec ses propres parents, de vous dire, ok, quelle est moi ma place et quel rôle je joue pour les uns et pour les autres, et quel est le rôle peut-être dont je n'arrive pas à me départir, parce que souvent, c'est tellement connecté à notre identité qu'on est attaché à cela et on a des comportements qui ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on voudrait faire, mais parce qu'on n'arrive pas à sortir dans ce rôle-là. La famille, c'est vraiment un jeu de rôle en permanence. Et de pouvoir le déconstruire, c'est assez aussi essentiel. Pour des enfants qui se construisent, on a besoin de parents qui se déconstruisent.
Je suis tout à fait d'accord avec, avec cette très belle phrase. Alors, les émotions dans tout ça, parce qu'on a parlé de croyances, on a parlé de construction, on a parlé de corps, mais on parle souvent des émotions. Les émotions, quel rôle elles jouent? Parce que souvent, on explique qu'on a parlé du cortex préfrontal qui sert à réguler les émotions. Mais est-ce qu'elles ont déjà un rôle dans les apprentissages? Dans le relationnel, ça paraît assez évident, mais peut-être lequel? Et surtout, est-ce qu'elles ont un rôle dans le développement du cerveau?
Alors, les émotions, en fait, elles sont saines à partir du moment où elles ne collent pas. Et si elles collent, elles deviennent des états. Et donc là, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que la partie régulation émotionnelle, elle est très, très, très importante. Et donc, elle se passe dans le bon développement de cette dernière partie du cerveau. Les émotions, on parle aussi beaucoup de l'amygdale, donc qui est aussi le centre de la peur. Donc ça, c'est la nature, on va dire, plus ancestrale des émotions. Mais après, on a plein d'émotions qui sont attées aussi des expériences. On a toute une mémoire émotionnelle. Et c'est par l'émotion, d'ailleurs, qu'on arrive aussi à accéder à la mémoire. Et les mémoires émotionnelles, elles vont laisser des traces chimiques dans notre cerveau qui s'appellent des engrammes. C'est-à-dire que toutes vos mémoires, elles ont comme une petite capsule et, qui libère quelque chose. Le traumatisme, c'est ça aussi. Souvent, on a une mauvaise compréhension du traumatisme, c'est-à-dire qu'on lie le traumatisme à un événement traumatisant. Le traumatisme, c'est une réponse du système nerveux à un événement. Mais on ne peut pas considérer que l'événement est traumatisant. Parce que ça peut très bien être un déménagement, une brouille avec un petit camarade de classe, qu'un deuil, que de la violence d'un parent, ou un jour, un enfant qui s'enferme dans des toilettes publiques et qui a l'impression que c'est le dernier jour de sa vie. Et que, voilà. Donc, nous, du point de vue de parents, on peut dire, bah non, rien de grave, bah si, ça a peut-être laissé quelque chose de... Et l'émotion qui est rattachée à ça, elle est tellement forte que quand il y a un traumatisme, la mémoire ne se fait pas. Ça ne passe pas par l'hippocampe dans le cerveau, donc ça ne passe pas dans le passé. Et à chaque fois qu'il est confronté à des situations qui vont lui rappeler cet événement, eh bien, il a cette émotion très forte qui vient avec toute la cascade de chimie qui se crée et dans un état de stress ultra élevé. Et donc, ça, il ne va pas du tout arriver à le gérer, et c'est bien normal. Mais c'est une émotion, si vous voulez, double. C'est parce qu'elle est rattachée quand même à un événement. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans les émotions, c'est qu'elles ne sont pas rattachées à la morale. C'est-à-dire que vos émotions, vous les ressentez comme ça. Et après, quand votre cerveau se développe bien, vous allez les rattacher à l'éthique, quelque part. C'est OK, j'ai cette colère, mais est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle n'est pas juste? Et puis vous ajustez. Et cette façon de percevoir l'émotion et de lui donner une espèce de deuxième vision, c'est je sens, mais j'accueille ou j'accueille pas, je laisse sortir ou je laisse pas sortir. Enfin, il faut toujours laisser sortir l'émotion, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que j'y reste véritablement ou pas? Donc ça vient vraiment de ce cortex préfrontal. Il y avait Damasio, justement, qui est un grand neuroscientifique, qui avait étudié l'histoire d'un homme qui avait été trépané. Cet homme avait donc tout le crâne ouvert et il y avait certaines parties du cerveau qui avaient été endommagées, mais pas toutes. Il avait toutes ses émotions intactes. En revanche, c'était devenu un salopard. Justement parce que son cortex préfrontal avait été endommagé. Donc ses émotions étaient toujours là, mais ce qui faisait qu'il allait en faire quelque chose de positif ou de négatif n'était plus là. Donc il commettait des actes qu'il ne commettait pas du tout préalablement, mais il n'avait plus cette espèce de filtre. Donc voilà, les émotions, on a notre partie très primaire, très animale. Mais après, pour devenir des êtres humains, entre guillemets, et pouvoir créer du lien social, de l'humanité, du respect d'autrui, on a besoin aussi qu'elles passent par ce filtre un peu de C'est comme un parent. Il y a deux étages, en fait, à l'émotion. Il y a l'étage d'enfant, justement, qui sent, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Et puis, il y a l'étage du parent, plus calme, en disant, t'inquiète pas, ça va aller. Et où on va passer à côté de ça. Et je veux dire une autre chose sur l'émotion qui est très importante pour moi, c'est que les recherches ont montré que quand un enfant a une émotion négative, il est très important de ne pas essayer de l'en faire sortir. Souvent le réflexe, ça va être de détourner l'attention, de dire « Oh mais la vie continue », puis on essaie de ramener de la joie. Et quand on fait ça, on amène justement des enfants à fuir leurs émotions parce qu'ils ont l'impression qu'on n'est pas à l'aise avec une émotion négative. Et sur le long terme, c'est aussi très lié aux attachements, ça crée beaucoup d'attachements évitants. Donc quand il y a un problème, on n'y fait pas face, on fuit, on avance, on continue, mais on ne va jamais régler ce qu'il y a vraiment au fond et qui fait mal. Et donc on se balade avec des squelettes dans le placard qui deviennent de plus en plus importants et qui vont entraver le bon déroulement et pour notre vie de tous les jours, évidemment, ce qui va compliquer considérablement les choses. Donc ça, voilà, souvent on se dit être un bon parent, c'est aussi savoir remettre l'enfant en route. Ben non. Quand un enfant a une émotion négative, on s'assied avec lui et puis on attend que ça se passe. Et on ne lui parle pas nécessairement, on n'essaie pas de le réconforter nécessairement, on est juste là, on peut lui tenir la main, d'avoir un contact physique, c'est vrai que ça va quand même aider. Mais voilà, surtout de ne pas essayer de faire qu'il passe à un autre état qui soit plus positif, soi-disant, parce qu'il n'y a aucun problème avec les émotions négatives.
C'est pour ça que j'aime bien la notion d'émotion désagréable et agréable. Parce que cette notion de désagréable à la place de négatif, par exemple, ça permet de mettre en avant le fait que c'est désagréable pour l'enfant, mais du coup, c'est aussi pas agréable pour nous, quoi, pour nos parents. Et bien souvent, en plus, c'est là où tout s'entremêle, les croyances, comment est-ce qu'on a grandi. C'est que souvent, bien souvent, quand on veut éviter ces émotions désagréables, c'est déjà parce que nous, on sait pas quoi foutre avec les nôtres. Et que du coup, comment aider notre enfant ? On se sent du coup souvent, bien souvent incompétent. En plus, il y a un vrai sujet, on va pas forcément le développer, mais il y a un vrai sujet genré derrière. Sur justement le développement des émotions, c'est plus souvent aux petits garçons à qui on va dire ton émotion, t'es gentil, tu la mets de côté, tu pleures pas, t'as pas à dire ça, à part la colère et la joie. Mais il y a vraiment ce côté où ça peut être un vrai défi aussi pour l'adulte justement de rester à côté de l'enfant qui traverse un moment difficile en ayant l'impression que son rôle c'est forcément de trouver une solution, alors que non. Et aussi parce que ça peut peut-être raviver des choses à l'intérieur de nous qui sont justement désagréables.
Oui, absolument. Et puis pour moi, quand j'entends négative et positive, j'y vois pas un jugement moral, j'y vois plus un aspect de polarité physique. Justement, aussi négatif va entraîner la transformation du positif. Parce que désagréable, ça veut dire qu'on va la dissoudre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va la transformer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mmh.
Alors que du négatif, on peut passer au positif.
J'aime beaucoup l'image.
Et je trouve ça aussi intéressant de dire ça. C'est que quand c'est négatif ou désagréable, ça va en effet toucher à quelque chose, et souvent nous, en tant que parents aussi. Mais tant que ça demeure désagréable, ça restera toujours désagréable. Et peut-être qu'à un moment, en fait, on va arriver à que ce ne le soit plus. Donc, c'est comme de la même façon qu'il y a des colères très saines. Il y a des colères qui nous, qui nous réveillent. Et donc là, on est négatif-positif. Et ça, pour moi, il y a un truc assez enthousiasmant et qui donne aussi beaucoup d'espoir. Donc, c'est pour ça que je comprends tout à fait cette notion de pas vouloir stigmatiser. Mais après, je me dis, oui, mais il y a aussi un aspect qui peut être...
Non, mais carrément. Mais c'est, je vous remercie de l'avoir expliqué parce que c'est vrai que c'est un point de vue que je n'ai pas encore entendu. Et j'aime bien cette idée de on peut en faire quelque chose de positif sans tomber non plus toujours... je sais que je prends toujours beaucoup de pincettes dans le podcast, mais sans tomber non plus dans il faut être toujours positif.
On a aussi pas du tout.
Voilà, on a aussi le droit d'être dans le négatif et justement de vivre ce moment négatif, et c'est certainement en le vivant et en l'acceptant comme un moment négatif qu'il viendra autre chose, en tout cas.
Et puis un moment négatif, ça peut être un très grand moment de connexion.
Bien sûr, complètement.
Donc voilà, quand on se sent pas bien et qu'on est entouré, et c'est là aussi où on le transforme en positif, c'est qu'il y a quelque chose qui s'en crée, quoi.
Ça a été, ce que vous dites là, c'est marrant parce que je vais rapporter ça à une expérience personnelle. Moi, la première fois que j'ai vu les deuils un peu, comme on pouvait les voir dans les séries américaines où il y avait beaucoup, sachant que dans mon entourage, c'était pas ça en fait. C'était l'enterrement et puis après, chacun rentrait dans ses pénates et il y avait vraiment qu'un côté famille proche. Et c'est là où j'ai vu le voisinage. C'était dans des films, le voisinage qui amène à manger, qui machin, et puis tout le monde. Et voire même on fait la fête, quoi. Et du coup, j'ai vécu ça il y a pas longtemps. malheureusement. Mais ce moment justement négatif où on va créer du lien, on va s'entourer parce qu'on sait qu'il faut, des fois, il faut juste être là. Et il y a aussi ce fameux moment où on dit, mais je sais pas quoi dire à la famille en deuil, mais en fait, rien, juste soyons là, et puis parlons d'autre chose, même s'il faut de complètement autre chose, mais créons du lien, et c'est vrai que ça rapproche, et ces moments émotionnels sont vraiment importants. Pour terminer cet épisode qui est déjà très très riche en informations, j'avais une question un petit peu pour synthétiser quelques éléments. Si vous aviez trois astuces majeures comme ça pour aider notre cerveau, alors pas forcément que celui des enfants, hein, parce qu'on a bien compris que s'occuper du cerveau des adultes, c'est certainement un bon moyen pour s'occuper du cerveau des enfants. Si vous aviez trois astuces comme ça à transmettre à l'auditoire, quelles seraient-elles ?
Premièrement, trouver des stratégies pour réguler notre système nerveux qui, sur le long terme, permettent de l'amélioration. On a tous des stratégies pour faire baisser notre niveau d'anxiété. On vit dans une société ultra anxiogène. Souvent, justement, nous n'avons pas eu d'attachement sécure pendant l'enfance parce qu'il n'y a que 50% de la population qui reçoit cet attachement. Donc, on a mis en place des systèmes. Et ça peut être, pour certains, de regarder des séries, pour d'autres, de boire un verre, de fumer, d'être accro à son téléphone portable, d'être tout le temps entouré de monde, peu importe qu'elle soit. Mais en tout cas, il y en a qu'on peut mettre en place et qui vont nous permettre d'avoir une croissance générale, d'aller mieux, de mieux réguler notre corps, de mieux réguler notre système, de nous rendre plus disponibles émotionnellement. Et ça, de le mettre en œuvre, ça permet toute une cascade de changements très positifs pour notre parentalité et pour les êtres humains qu'on est dans la société. Donc, première chose, voilà, trouver, et par la respiration, par la méditation, il y a des clés vraiment qui sont très puissantes. Le numéro 2, c'est jamais lâcher la main des enfants, jamais laisser filer la relation. Parce que quand il y a des entailles, il faut savoir les réparer. Donc, apprendre à réparer, c'est essentiel. Et en permanence, pas laisser du temps passer. Quand il y a quelque chose qui s'est produit, il faut prendre le temps de le réparer immédiatement. Et la troisième chose, c'est quelque chose que j'ai apprise récemment, c'est apprendre l'art du conflit. On n'apprend pas à se disputer. On apprend la communication non violente, on apprend toujours en positif, justement. Et on apprend moins à faire face au négatif. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont en souffrance parce que, justement, ils ont tous les bons codes. Ils ont appris les bases de la communication non violente, ils veulent être des personnes respectables, donc ils font attention à ce qu'ils font. Mais à l'intérieur, ce n'est pas prêt. Donc, ils sont en désaccord avec ça. Donc, si on devait voir ce qui se passe dans leurs hormones au moment où ils disent les choses, on verrait qu'il y a un décalage. Et ce décalage, il fait beaucoup souffrir. Et en plus, il crée aussi des problèmes parce que quand on envoie une énergie et qu'on dit des mots qui sont différents, eh ben, c'est très troublant, notamment pour le cerveau des enfants. Donc, ça, c'est pour moi un travail qui, à la fois, est ultra joyeux parce qu'on va voir justement quelles sont nos zones rouges, on va apprendre beaucoup sur soi, et qui est très enrichissant et qui permet l'élément précédent que je citais, de ne pas abîmer la relation. En tout cas, de la réparer à chaque fois qu'on fait un petit accro. Voilà.
Et puis en plus, c'est une super opportunité pour, dès le cocon familial ou le couple, hein, osons le dire, hein, transmettre à nos enfants que tout le monde ne sera pas toujours d'accord et que parfois, il faut bien faire avec. Et voilà, c'est hyper important.
Et que le conflit est sain.
Ah oui, tout à fait.
Qu'il n'y ait pas de conflit, ne l'est pas. Donc, c'est qu'il y a un manque de sécurité s'il n'y a pas de conflit.
Et puis moi, ça me permet de justement aussi peut-être de reposer votre raisonnement tout à l'heure. C'est que le conflit qui est perçu comme négatif, une fois qu'il est sain, qu'il est traité de manière saine, permet de passer justement généralement sur un état positif. Un état positif qui peut être « Ok, nous ne serons pas d'accord. »
Le conflit, c'est une opportunité de resserrer les liens. Dans mon dernier livre que j'ai écrit sur l'amour, « L'incroyable pouvoir de l'amour », justement, j'ai fait toute une partie avec des chercheurs qui sont devenus vraiment experts du conflit et qui ont vu quelles étaient les bases d'un conflit réussi. Et l'important, c'est de se souvenir qu'en réalité, quand on rentre dans un conflit et quand on en sort, on doit sortir mieux quand on en sort que quand on y est entré. Et quand on sait bien s'y employer, ben c'est toujours le cas. Et qu'est-ce qu'on est bien après ? Parce que qu'est-ce qu'on est proche, en fait ? Parce que le conflit, c'est le besoin de proximité. Quand vous avez une dispute qui éclate sur quelque chose, c'est parce que vous vous sentez trop loin de l'autre. Que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans... Donc vous avez besoin de vous rapprocher. C'est ça la vraie finalité du conflit. Et on peut le réussir.
Merci beaucoup pour tout ça. Du coup, votre dernier livre, en effet, L'incroyable pouvoir de l'amour, est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et peut-être que ça sera l'occasion d'un nouvel épisode, parce que le sujet est, je pense, passionnant. Merci beaucoup, Stéphanie Brien.
Merci, Cédric, et merci à tous pour votre attention.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.